Bonjour à tous et bonjour à vous, mon invité, Abbé Baptiste Pochulu.
Bonjour Anne-Rose, bonjour Joseph.
Vous êtes le responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et avec vous, nous allons parler de ce qui vient de se passer depuis lundi, depuis la mort du pape. Les jours qui suivent la mort du pape s'articulent autour de trois grands temps forts, la séquence du deuil qui dure 9 jours, la séquence des funérailles et puis la séquence du conclave qui mène à l'élection du futur pape. Alors on va essayer de comprendre avec vous un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, et puis en particulier demain, puisque demain matin seront célébrées les funérailles du pape François. On a vu depuis lundi des mots, des gestes, des visages qu'on ne connaît pas, en particulier peut-être qu'on peut commencer en parlant du cardinal Kamerling. Alors c'est un peu celui dont on ne parle jamais habituellement, en temps normal, et puis dans ces circonstances, eh bien, c'est l'homme qui a un rôle absolument incontournable. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui il est et quel a été son rôle depuis lundi, depuis l'annonce du décès du pape qu'il a lui-même fait en public?
Effectivement, cette fonction de cardinal Kamerling de la Sainte Église romaine, comme dit son titre, voilà, c'est une fonction qui est nommée par le pape, prévue pour justement quand le siège de Pierre sera vacant, quand il n'y aura plus la présence d'un pape régnant, et donc c'est une fonction presque, on pourrait se dire d'une certaine manière, d'attente, voilà. Et au moment de l'annonce du décès du pontife, ben c'est là où tout commence pour lui, avec, comme on le voit hein, depuis le début de la semaine le constat que font de nombreuses personnes, voilà, tout est ultra codifié. Oui. Voilà, on retrouve là quelque chose de liturgique avec des rubriques qui nous disent, voilà, il faut faire ci maintenant.
Tout est écrit, il y a des règles pour chaque geste et pour chaque moment.
Pour chaque étape, effectivement, tout est écrit. Ça commence, voilà, avec l'annonce lundi matin de ce décès. Donc on voit effectivement dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican le cardinal Farrell entouré de celui qui était, puisque pendant la vacance du siège, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a plus de curie, puisque toutes les fonctions de curie tombent.
Tout s'arrête.
Celui qui était jusqu'à dimanche soir, eh bien, le cardinal secrétaire d'État du pape, donc le cardinal Parolin, et à côté de eux, je crois que c'est Monseigneur Peña qui est le sous-secrétaire de cette même secrétaire d'État, en charge, voilà, des affaires internes de l'Église. Et tout commence pour lui là avec l'annonce publique du décès du pape, et le lundi soir, eh bien, la constatation officielle du décès avec, ben voilà, c'est là où on a cette fameuse mise en bière du corps et puis la destruction de l'anneau du pécheur, voilà, et surtout la fermeture des appartements pontificaux.
Oui, alors ça c'est très impressionnant, hein, on l'a vu effectivement sceller les portes du bureau du pape François. Finalement, alors on parlera aussi de fermeture tout à l'heure quand on parlera du conclave. On ferme, on cloisonne, on arrête tout.
On ferme tout et tout ce qui est à l'intérieur reste en place jusqu'à l'élection du prochain pape. Et c'est avec l'élection que tout sera de nouveau ouvert, dans cette idée que s'il y avait un document sur le bureau du pape, il reste en place, voilà, avec, on imagine, le stylo encore ouvert à côté. Et puis le prochain pape, ben, quand il arrive, il retrouve le bureau dans le même état, avec la même feuille de papier. Et c'est le nouveau pape qui pourra seulement décider ce qu'il fait de ce voilà. bout de
et papier. Vraiment s'inscrire dans une continuité de
travail.
C'est
ce qui s'était passé en 2013, si vous voulez, avec le pape Benoît XVI qui était en train de préparer une encyclique que le pape François a terminée, et cette fameuse encyclique, comme on dit, écrite à quatre mains, qui a été le document programmatique ensuite du pontificat du pape François.
Alors ça, c'est ce qui se passe dans l'immédiat. Et puis, il y a ce temps de deuil, pendant lequel il y a évidemment la vacance du Saint-Siège. Puis ça va durer jusqu'à l'élection du nouveau pape. Puis aussitôt, il faut quand même le dire, la convocation des cardinaux qui sont arrivés d'un petit peu partout, du monde entier, qui sont arrivés très rapidement à Rome parce qu'on leur a demandé de venir.
Effectivement, quand il n'y a plus d'évêque à Rome, quand le siège est vacant, eh bien la mission de conduire l'Église, en fait, elle repose sur le collège des cardinaux, avec une mission de coordination qui est confiée au cardinal Kamerling. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est ça la congrégation générale?
Alors, les congrégations générales, ce sont toutes les réunions effectivement du collège des cardinaux qui vont s'étaler donc sur 15-20 jours, voilà. Et effectivement, ces congrégations générales qui sont présidées par le cardinal doyen du Collège des cardinaux, avec le Kamerlingue, et qui sont là à la fois pour préparer toute cette période de deuil et la préparation du conclave, voilà, mais aussi gérer, comme on peut dire aussi, expédier les affaires courantes, les affaires courantes et urgentes de l'Église. Mais en aucun cas, par exemple, il ne peut y avoir de nomination d'évêque.
Voilà, là, c'est vraiment... Ça sera réservé au prochain souverain pontife.
Donc, effectivement, beaucoup de choses se mettent en pause, voilà, et comme si d'un coup, on devait lever les mains des bureaux et puis on touche plus le bureau jusqu'à l'élection du futur pape. Et donc, l'autorité, la mission est confiée au Collège des cardinaux avec le cardinal Kamerlingue qui a toute cette mission-là, effectivement, de coordonner tout ce travail. Les trois personnages clés qu'on voit depuis lundi, hein, c'est donc effectivement le cardinal Kamerlingue, le cardinal Farrell, le cardinal doyen du Collège des cardinaux, donc le cardinal Giovanni Battista Re. Et puis un autre aussi, enfin voilà, qui est d'un point de vue liturgique le grand maestro, donc le maître des cérémonies pontificales, donc le monseigneur Diego Ravelli, qui, enfin voilà, qui sont les trois à coordonner l'ensemble de la vie de l'Église, et monseigneur Ravelli particulièrement pour tout ce qui est préparation, mise en œuvre des célébrations liturgiques.
Alors justement, le cardinal Ravelli, avec le Collège des cardinaux, prépare aussi les funérailles. Ça fait partie du travail des congrégations générales.
Alors c'est ça, c'est-à-dire que les congrégations générales, dans leur travail de préparation, par exemple, ça va être décider la date des obsèques. Voilà. Ensuite, après avoir décidé la date des obsèques, du coup, on entre dans le temps des novendiali, donc de ces neuf jours où on célèbre des messes de suffrage. Et la congrégation générale, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle choisit qui va présider la messe et qui vont être un peu, d'une certaine manière, les invités spéciaux. Voilà. Ensuite, le contenu liturgique, le contenu liturgique des messes, il est réglé à la fois par les documents pontificaux, que ce soit ce qui permet la gestion de l'Église pendant la vacance du siège, donc Pastorum Gregis, et puis l'Ordo Exequiarum Romanum Pontifice, qui est le rituel qui dit comment doit s'organiser le contenu même des temps de prière pour les obsèques du pape.
Alors tout est écrit, c'est un protocole qui est prévu vraiment dans tous ces textes officiels, mais le pape François, il a quand même pu exprimer certains souhaits tout à fait personnels dans son testament. Donc il y a les textes officiels qui expriment un protocole à respecter, et puis il y a quand même le testament du pape défunt qu'il faut aussi respecter. Comment les deux se conjuguent ? Est-ce que d'abord dans le testament du pape, il y a des choses qui bousculent vraiment le protocole prévu ?
Alors, une chose significative, si vous voulez, par rapport au décès du pape François et qu'on avait pu voir mais qu'on n'avait pas vu avec Benoît XVI et pas avec Jean-Paul II en 2005, le corps du pape François est exposé à la prière des fidèles dans la basilique Saint-Pierre, comme ça avait été le cas pour les deux précédents pontifes, tous les précédents pontifes, mais le corps du pape François est déjà dans son cercueil. Alors que, de tradition, le corps était présenté en dehors du cercueil. Et ça, c'est clairement, vous voyez, dans ce rituel des obsèques du pontife romain, c'est clairement une volonté de changement du pape François qu'il avait exprimé. Donc, le rituel des obsèques est publié de manière officielle par Jean-Paul II, et ensuite il a été mis à jour suite aux obsèques de Jean-Paul II par Benoît XVI, et puis le pape François également.
A rajouté sa petite touche.
Chacun y va de sa... de sa rubrique personnelle. Et effectivement, ce que l'on lit dans le testament spirituel du pape François, c'est, alors ce que l'on savait, hein, qu'il avait déjà exprimé publiquement, c'est ce désir, cette volonté d'être enterré, non pas à Saint-Pierre de Rome, mais à Sainte-Marie-Majeure. Et depuis ce matin, des photos circulent de la tombe qui est déjà,
qui est prête. Voilà. Ouais. Alors oui. il n'est pas le premier à ne pas être à la basilique Saint-Pierre. Il y avait déjà Pie IX qui est à Saint-Laurent hors les murs, c'était en 1878, et puis Léon XIII en basilique du Latran, ça c'était en 1903. Donc il n'est pas le premier, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort. Est-ce qu'on peut dire que c'est symbolique? En tous les cas, on sait que pour lui c'était un lieu, la basilique Sainte-Marie-Majeure, un lieu important de prière, de recueillement. On n'est pas très étonné de ce choix, mais c'est quand même un petit changement dans le protocole.
C'est un changement. Ça fait partie des possibilités. Faire un évêque est enterré dans sa cathédrale. La cathédrale de Rome, c'est Saint Jean du Latran, c'est pas le Saint-Pierre. Mm-hmm. Il faut pas l'oublier non plus.
Mais quand même, depuis un siècle, ils y sont tous.
Voilà, ils y sont tous. Alors voilà. Après, c'est vrai que forcément, quand le lieu d'exercice de la mission et du ministère de Pierre est au Vatican, quand on a été successeur de Saint-Pierre, on comprend qu'on a envie d'être enterré proche de Pierre aussi. Et après, en fonction des dévotions personnelles, des attachements personnels, ils ont la possibilité, et effectivement, vous le rappeliez très, très, très bien, et c'est marqué dans le testament du pape, voilà, on le savait, il avait un attachement particulier à Sainte-Marie-Majeure. À chaque fois qu'il partait ou qu'il revenait
d'un voyage,
il se faisait un arrêt à Sainte-Marie-Majeure. Le dernier voyage et sa sortie de l'hôpital.
Alors avant de décortiquer le rite de la cérémonie des funérailles et puis avant de marquer une pause aussi pour le journal, on va regarder ce qui va se passer juste avant la fermeture du cercueil, parce que là aussi il y a un rite tout à fait particulier, propre bien sûr au souverain pontife. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord avec quoi il est enterré? Alors on sait que on le voit déjà dans ses habits pontificaux et avec sa mitre, donc il va être enterré avec tout ça.
Exactement, en fait, comme pour un prêtre, comme pour un, enfin voilà, le fait d'être enterré en habit liturgique, voilà. Donc pour le pape, c'est vrai, enfin voilà, c'est en habit avec une chasuble rouge, avec la mitre, voilà, signe de sa mission, de sa charge particulière. Et puis alors ce soir, donc effectivement à 20h, la fermeture du cercueil du pape. Alors on va retrouver les personnages clés, hein, qu'on a déjà cités.
Le trio.
Le trio, et effectivement dans les rites de fermeture du cercueil, alors maintenant en plus la technologie nous permet de voir ça, de filmer ça, alors qu'à l'époque c'était moins le cas, on va mettre, il y a un rouleau qui est scellé dans un tube en plomb, qui rappelle tout ce qui a été fait justement dans cette période de deuil, et puis qui présente, je crois, aussi un résumé du pontificat. Il y a des pièces qui sont mises, les pièces qui ont
Pourquoi
été
des fait... pièces?
Alors c'est les pièces qui ont été frappées pendant le pontificat. Voilà.
Donc ils sont placés dans le cercueil.
Ils sont placés dans le cercueil. Alors, ce n'est pas des pièces de monnaie, hein, c'est des pièces. Donc il y a ça. Et puis il y a ce rite assez magnifique qui est fait donc, par le maître des cérémonies pontificales, de poser un voile de soie blanche sur le visage du pape.
Et qu'est-ce que ça signifie, ça?
Ah, c'est je pense toute cette attente, enfin, voilà, de la résurrection qui est manifestée avec ce blanc.
C'est un signe d'espérance.
C'est un signe d'espérance. Et vous voyez cette blancheur, enfin, voilà, mourir durant la semaine de l'octave de Pâques, eh bien de cette blancheur de Pâques, de cette lumière de Pâques que ce voile blanc n'est pas sans nous rappeler.
On marque une pause pour le journal et on se retrouve juste après. On va essayer de regarder d'un petit peu plus près tout ce qui va se passer pendant le rite des funérailles.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Je suis avec l'abbé Baptiste Pochulu, qui est chapelain et responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Avec vous, abbé Baptiste Pochulu, nous parlons de tout l'aspect protocolaire et liturgique depuis lundi, depuis que le pape François est décédé. Et on va se pencher maintenant sur le rite des funérailles, puisque on imagine certainement que durant cette messe de funérailles, il y aura des particularités réservées au souverain pontife. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer? C'est demain à 10h.
Demain à 10h, effectivement, donc sur la place Saint-Pierre au Vatican, enfin voilà, des images qui sont bien présentes dans nos têtes à tous. Hein. Enfin, c'était le cas pour Benoît XVI, Jean-Paul II, et ceux d'avant encore. Dans ce rite particulier des obsèques, surtout au moment de ce qu'on appelle l'absoute, enfin, voilà, vraiment le dernier moment, l'ultime recommandation à Dieu, avec deux recommandations. Une recommandation de l'Église de Rome, avec le chant de la litanie des saints en latin et grégorien, pour se rappeler qu'on est bien latin, voilà. Et puis une autre recommandation qui est, elle, des églises orientales, voilà, avec une longue prière, une belle prière dite en grec par l'un des patriarches des églises orientales unies à Rome. On peut penser par exemple, voilà, aux maronites ou à l'église catholique ukrainienne, voilà. Et donc le patriarche qui dit cette prière avec l'aspersion du corps, voilà. Comme si deux absoutes, enfin, voilà, en tout cas par ces deux recommandations, la manifestation, l'expression de cette dimension universelle de l'Église de Rome, catholique surtout, avec ces deux poumons qui ne respirent que le même air, mais voilà, un poumon latin et un poumon byzantin.
Alors ça résonne tout à fait particulièrement cette année où nous célébrons les 1700 ans du Concile de Nicée.
Et où le calendrier julien et le calendrier grégorien avaient la même date de Pâques.
Ah oui.
Voilà. Donc latin et byzantin avaient la même date de Pâques. Donc effectivement, on peut chercher un tas de signes providentiels dans les dates de décès des pontifes. Hein. Benoît XVI est décédé aux portes, à la fin du temps de Noël, qui était son temps liturgique préféré, pour le dire de manière un peu simple. Jean-Paul II est décédé le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la Miséricorde, fête qu'il avait lui-même instituée. Paul VI est mort le 6 août, le jour de la Transfiguration. Enfin, on peut chercher. François meurt donc le lundi de Pâques, dans cette octave de Pâques, donc dans cette semaine où tous les jours on dit aujourd'hui. Voilà, on parle de. Voilà, c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est Pâques, aujourd'hui c'est dimanche de Pâques, aujourd'hui c'est le jour de la résurrection. Donc effectivement, il y a une providence divine derrière. Et effectivement, comme on vient de se dire, ben voilà, cette providence aussi avec le même calendrier, les 1700 ans du Concile, et puis cette année jubilaire dans laquelle on est aussi avec ce beau et grand thème de l'espérance.
Et oui, ça c'est un peu son héritage spirituel. Alors, Monseigneur Mika, mardi, à votre place, parlait de la miséricorde comme l'héritage spirituel du pape François. On peut aussi évidemment parler d'espérance, mais bon, chacun trouve dans la vie, les écrits, les voyages, ce que le pape François a fait, l'héritage qu'il souhaite et qui le fait avancer dans sa foi. En tous les cas, on a bien compris, ce rite des funérailles est tout à fait particulier puisqu'il s'agit d'un souverain pontife, donc il y a ce moment de l'absoute.
Oui.
Et quoi d'autre ?
Et après, l'autre moment, effectivement, c'est comme on l'a vécu, c'était mercredi matin, hein, l'entrée solennelle du corps du souverain pontife dans la basilique vaticane, donc à la fin de la messe aussi, ben voilà, ça fait partie du rite. L'entrée de nouveau, c'est marqué comme ça, donc ça fait partie du rite, de nouveau l'entrée du corps du pape dans la basilique vaticane pour être enterré. Alors là, effectivement, il y aurait un voyage à faire parce que Saint-Pierre et Sainte-Marie-Majeure, c'est pas tout à fait, c'est pas à côté, c'est pas non plus à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais effectivement, il faudra faire ce transfert pour passer.
Donc aussitôt là, ça fait partie du bloc rite des funérailles.
Si vous voulez, ça fait partie du bloc parce que quand on célèbre des obsèques en paroisse et que vous avez le cimetière à côté de l'église, on passe de l'un à l'autre, si on peut dire ça comme ça, tout de suite. Voilà, il n'y a pas de temps d'attente. Et effectivement, c'est la même chose.
Et alors là, ça va se passer en procession. Alors évidemment, on imagine la foule qu'il y aura pour rendre un dernier hommage au pape François. Mais comment ça va se passer avec des chants, des psaumes
Alors c'est ça, c'est ce qu'on voit depuis. C'était très beau de le voir mercredi matin. Voilà, ce transfert mystère du corps du pape depuis la chapelle de la résidence Sainte-Marthe jusqu'à la basilique vaticane, ce transfert qui se fait au son et au chant des psaumes.
Voilà. Et ça va être la même chose pour aller du Vatican jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure demain matin
Alors, après. Peut-être, je ne sais pas si le transfert se fera à pied ou s'il se fera en voiture. Donc, voilà. Effectivement, je crois que c'est pour le pape Pie XII. Qui était mort à Castel Gandolfo, lui aussi comme Paul VI. Je crois que c'est pour Pie XII qu'effectivement il y avait eu une immense procession dans Rome, de la porte de Rome jusqu'à la basilique vaticane pour accueillir le corps du pape et voilà, dans cet hommage du peuple de Rome à son évêque, il ne faut pas l'oublier. Alors est-ce que demain on aura une telle procession? Je ne sais pas. Ça pourrait être quelque chose de magnifique à voir, et surtout, plus que voir, à vivre surtout.
Alors, arrivé à la basilique Sainte-Marie-Majeure, évidemment, l'inhumation. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, on se concentre sur le conclave. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que, une fois qu'il sera inhumé... est-ce que le deuil est terminé? On passe au conclave? Comment ça va se passer à ce niveau-là?
Inhumation avec, vous voyez, place Saint-Pierre. Donc voilà, on aura l'Église universelle rassemblée pour recommander à Dieu le souverain pontife. A été publié hier dans un communiqué de presse de la salle de presse du Vatican, comme quoi sur les marches de la basilique Sainte-Marie-Majeure, donc là où va être enterré le pape François, il y aura une délégation de pauvres et de gens dans le besoin. Voilà. Le texte qui accompagne.
Donc on peut imaginer des migrants, des anciens détenus.
Exactement. Ce peuple-là que le pape François affectionnait particulièrement. Mmh. Voilà. Ce peuple-là sera là comme une haie d'honneur pour son entrée dans ce qui sera sa dernière demeure sur terre, cette magnifique nécropole de la basilique libérienne, de la basilique Sainte-Marie-Majeure en haut de l'Esquilin là-bas à Rome. Et effectivement, le pape est enterré, mis en terre, on scelle le tombeau et on entre, on poursuit la marche de l'Église en entrant, alors dans ces novenes diali, donc c'est-à-dire ces 9 jours de célébration où tous les jours on va célébrer des messes de suffrage pour le pape. Alors le Vatican a publié toute la liste. On commence dès dimanche matin à l'extérieur, donc présidé par le cardinal Parolin, et puis tous les jours de lundi jusqu'au samedi qui suit. Même jusqu'au dimanche qui suit, à 17h, une messe présidée par un cardinal.
Donc ça, c'est la séquence des funérailles qui continue. Et le conclave ne commence pas tant que cette séquence des funérailles n'est pas terminée.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans les documents qui ont été publiés, donc voilà, le 9e jour est identifié comme le dimanche 4 mai. On peut se dire que, alors pour l'instant, aucune date n'a été publiée, sauf peut-être depuis le début de cette émission, mais pour l'instant, on peut tout à fait imaginer que l'entrée en conclave pourrait se faire le lundi 5 mai prochain.
Voilà, alors...
dans les documents, c'est marqué que l'entrée en conclave doit se faire entre les 15 et 20 jours après la constatation de la mort.
Alors ça, c'est la durée avant que ça commence, et la durée même du conclave aussi est un petit peu, Régis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dure des mois et des mois non plus.
Non, c'est ça, d'où le terme de conclave. Si on a décidé un jour de les enfermer dans un lieu, c'est parce qu'à une Moyen-Âge, on avait été un peu long. Et donc du coup, pour les contraindre à se mettre au travail, ou en tout cas à écouter l'Esprit Saint, on les avait enfermés, et donc d'où ce fameux nom de conclave, avec ce fameux extra omnes, tout le monde dehors. Donc
c'est à la fois l'isolement complet et puis le secret absolu. C'est ça, c'est très important, parce que pendant tout ce temps du conclave, nos chers cardinaux, ils sont coupés du monde. Pas tout de presse, pas de téléphone, pas d'amis à rencontrer. Ni de consignes à recevoir. Donc ça, c'est quand même un temps très, très particulier. Le peuple de Dieu est en attente et eux, ils sont dans une espèce de bulle.
C'est ça, ils sont dans une espèce de bulle, une bulle spirituelle, voilà.
Ah oui, pour que l'Esprit Saint souffle. Pour que l'Esprit Saint souffle, il voilà, faut qu'il prie, oui, quand même.
Et effectivement, avec donc tout ce qui régit, hein, donc deux votes le matin, deux votes l'après-midi. Si au bout de deux jours de vote, il n'y a personne qui a été élu, il y a un troisième jour sans vote pour pouvoir eh bien, vivre une journée de récollection, une journée de prière. Et c'est, enfin, voilà, donc le conclave est ainsi rythmé, ben, avec ce fameux rite de la fumée noire, voilà, qui permet de faire savoir au monde entier. C'est, finalement, c'est, à l'ère du numérique, la fumée reste le dernier moyen, le seul moyen que les cardinaux ont de nous faire savoir.
Peut-être qu'il pourrait en avoir d'autres, mais en fait, ça dit aussi quelque chose, le fait de vouloir garder cette fumée noire puis blanche à la fin. C'est quand même s'attacher à ce. Bah, est-ce que c'est un rite est-ce qu'on peut appeler ça un rite?
Ah bah oui, ça fait clairement partie du rite. Oui, c'est-à-dire que le vote, le dépouillement du vote, l'annonce des voix. Et puis, effectivement, on brûle les bulletins et donc en tout cas, ça fait partie des documents, ça fait partie du rite dans les documents, mais ça fait partie du rite populaire que d'attendre la couleur de la fumée, ça c'est très clairement.
Donc, le prochain souverain pontife sera celui qui obtiendra deux tiers des voix au conclave.
Tout à fait, c'est à la majorité des deux tiers que
donc, ça peut durer une journée, mais ça peut durer presque deux semaines.
Voilà, c'est ça. On l'espère pas quand même.
Mais en attendant, le peuple de Dieu est aussi invité à prier pendant ce temps.
Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ce que vous disiez. Les cardinaux sont dans une bulle spirituelle, mais nous, notre attitude, qui sommes à l'extérieur, qui sommes encore dans le monde et surtout dans l'attente, nous, notre attitude, elle est clairement celle de demeurer en prière, vigilant dans la prière, attentif dans la prière, confiant dans la prière et intercédant pour les cardinaux. Enfin voilà, en demandant que l'œuvre de Dieu soit faite.
Vous qui êtes responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, abbé Baptiste Pochulu, dans tout ce que vous nous avez expliqué du protocole, de la liturgie, des rites depuis le décès du pape François et puis tout ce qui va se passer demain et dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous marque, quel est l'élément qui touche votre cœur, tout simplement?
Peut-être tout cet aspect de... Tout cet aspect de douceur qu'il y a autour de tous ces événements. Enfin, effectivement,
Pourtant, il y a de l'agitation.
Voilà, c'est ça. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que, c'est un événement bouleversant pour la vie de l'Église. On perd celui qui préside à la charité, comme dit Saint Ignace d'Antioche, voilà, en s'adressant à l'évêque de Rome. Donc, on perd, d'une certaine manière, une clé de voûte. Voilà. Et on le voit très bien, ça a des répercussions dans la vie du monde. Enfin, je ne sais pas combien de chefs d'État, en tout cas certains grands de ce monde seront présents demain matin. Enfin, c'est pas rien. Enfin, on pourrait, tous les deuils nationaux qui ont été déclarés dans certains pays, le fait de mettre les drapeaux en berne. Enfin, voilà, on voit ce que ça provoque dans le monde que la disparition du chef suprême de l'Église catholique. C'est pas rien. Ça crée beaucoup d'agitation. Ça crée de l'agitation dans les médias également, de savoir qui sera le prochain, et chacun y va de son petit pronostic.
Je ne vous demande pas votre pronostic.
Vous ne saurez rien. Et donc, ça ne sert à rien de se dire qui rentre pape au conclave en ressort cardinal. Donc, c'est ce que dit l'adage. Donc, il faut accueillir, au contraire, il faut demander au Seigneur dans ce temps de prière un cœur pour accueillir celui qu'il nous donnera pour pouvoir nous conduire, justement. Et donc, effectivement, il y a toute cette agitation, l'agitation, la file pour rentrer dans Saint-Pierre fait quand même 2 km.
Oui.
Il y a 4 heures d'attente, c'est absolument gigantesque. Enfin, on avait vu des choses comme ça, effectivement, avec la reine Elisabeth II d'Angleterre. Enfin, voilà, on a ça, donc effectivement, c'est toute une agitation, et pourtant, quelque chose de calme, quelque chose de paisible dans ce temps qui se vit. Peut-être aider, effectivement, alors, parce que c'est la lorgnette à travers laquelle je vois peut-être la chose, mais voilà, parce que la liturgie est là, elle nous porte, et elle nous porte dans quelque chose de tranquille, de un peu suave, voilà, en tout cas, qui nous permet de clairement toucher du doigt quelque chose de l'ordre de l'espérance.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, abbé Baptiste Pochulu.